Donc, bonjour, moi je suis Corentin Sprier, donc je suis ingénieur de recherche et je travaille à l'UGSF et au PLBS. Et donc je fais partie des animateurs de cette visite insolite du CNRS.
Voilà, donc ces deux labos, ils sont côte à côte ou ils sont associés?
Alors en fait, on a deux choses différentes. On a l'UGSF, donc c'est une unité de recherche, donc l'unité de glycobiologie structurelle et fonctionnelle. Et en fait, l'idée de cette unité, c'est d'étudier les sucres, donc étudier les sucres sous toutes ses formes. Donc ça peut être la façon dont ça va être stocké dans les plantes, ça peut être la façon dont ça va être utilisé par la cellule pour changer des informations, pour contrôler son destin. Et les PLBS, en fait, c'est des plateformes, donc les plateformes lilloises en biologie santé. Et c'est grâce à ces plateformes qu'on va avoir accès à des équipements de pointe qui vont nous permettre de réaliser cette recherche. Et donc moi, je travaille des deux côtés, du côté recherche fondamentale et du côté donner les moyens.
Donc c'est assez rare de visiter vos labos.
Alors c'est quelque chose qu'on fait effectivement assez rarement et là c'est une initiative assez sympa proposée par le CNRS d'avoir ce format-là où on profite de la fête de la science pour montrer en vrai à quoi ça ressemble les labos de recherche.
Donc dans ces labos, on y produit de la réflexion, on produit aussi de la prospective.
Bien sûr, oui. Là, on est en train de voir les recherches qui sont en train de se faire actuellement. Donc, nous, on reste une unité de biologie fondamentale. Donc, on a énormément de choses qui sont bien à traduire au public pour expliquer un peu ce qu'on fait, parce que ça reste des choses de spécialistes. Mais typiquement, sur ce qu'on a vu sur les biomatériaux, par exemple, ça donne une idée des perspectives qu'on va avoir sur l'avenir.
Alors, on voit bien à travers d'expériences très simples ou de matériaux hein, qui sont présentés ici, des choses, on pourrait même se demander pourquoi ça n'a pas été utilisé plus tôt. Par exemple, toutes ces matières qu'on peut utiliser maintenant, qui sont à base de matériaux naturels, on va dire, de produits naturels, pourquoi on a gardé si longtemps le plastique ou de choses un peu polluantes et dont on ne sait trop que faire?
En fait, là, c'est une des difficultés en venant ici, c'est que vous voyez vraiment là où on en est de la recherche. Et en fait, il y a pas mal de choses que nous, on est capable de faire à une échelle de laboratoire. Donc ça, c'est une première étape. Ensuite, il faut être capable de le décliner sur une échelle un peu plus massive, parce que faire quelque chose dans sa casserole et faire quelque chose sous forme de millions de tonnes, c'est pas la même chose. Et après, il faut optimiser les procédés et réussir à avoir de la production qui soit financièrement intéressante. C'est-à-dire que si on propose une solution écologique en général, si elle coûte 10 fois plus cher que la version polluante, les gens vont rester sur la version polluante. Donc là, typiquement, ces produits biosourcés, nous on travaille dessus depuis très longtemps. Mais par contre, je pense qu'il y a déjà l'opinion publique qui a été sensibilisée, donc il y a des intérêts économiques, et il y a le temps que l'industrie et qu'on passe de la science fondamentale à l'application et à l'industrialisation.
Donc, ce qui est produit en termes de recherche hein, dans vos laboratoires, est-ce qu'on peut dire qu'il y a déjà une projection qui peut en être faite à 5 ans, 10 ans, 20 ans?
Ça dépend vraiment des recherches en fait. On va avoir des choses qui sont vraiment des recherches d'amont et qui vont permettre de mieux comprendre des mécanismes. Donc là en général, c'est plutôt des projections plus longues. Alors évidemment, ça va être utilisé par la société civile parce que comprendre les mécanismes, ça va après permettre de trouver des solutions et de trouver la façon de les utiliser. Un des exemples, donc là qui est présenté par Vincent en microscopie, on a des projets où on essaye de mieux comprendre la lignine, donc c'est une des molécules qui va constituer la paroi végétale. Et en fait, ça c'est important de comprendre comment elle se fabrique parce qu'on va être capable de mieux utiliser les produits du bois et donc de les utiliser pour faire des biocarburants, pour optimiser la papeterie, pour faire des matériaux. Donc ça c'est typiquement des choses où on apprend le fonctionnement, on apprend comment ça fonctionne et à terme, ce sera repris par d'autres chercheurs qui en trouveront l'application qu'on peut en faire.
Alors c'est vrai que ces applications, elles sont sans doute attendues par l'industrie. Est-ce que pour autant les décideurs qui sont des élus ou des politiques, on va dire d'une manière générale, ont conscience des enjeux, voire même des possibilités qui ne sont pas forcément exploitées et d'autres qui vont être exploitées mais qui présenteraient éventuellement un danger?
Alors, la question est très compliquée, je pense qu'elle est très variable en fonction des personnes. La réponse, entre guillemets, que je pourrais faire là-dessus, c'est que il y a la recherche. Nous, en fait, on va produire de la connaissance, mais notre connaissance, en général, elle est très ciblée, elle est très difficile à comprendre pour le grand public, et aussi pour les décideurs, et aussi pour les politiques. C'est aussi pour ça que je pense que c'est très important les actions de communication, les actions de médiation, les actions de vulgarisation, parce que tout ça, ça participe à enrichir la société civile, à enrichir le débat qu'il va y avoir. Et en fait, si le débat s'enrichit, les pouvoirs publics s'adaptent, suivent, et donc pour répondre aux envies de leurs concitoyens, ils vont essayer de prendre en compte justement, notamment on voit au niveau de l'écologie, il y a une prise de conscience au niveau de la population, et on sent politiquement que ça a un impact très net et que ça impacte les décisions politiques aussi. Voilà, je pense que c'est très variable et ça dépend un peu de tout ça.
Donc une question peut-être plus spécifique par rapport à la formation des journalistes. Est-ce que ce que vous voyez dans les médias correspond, vous, à ce que vous voudriez voir exprimer de la recherche et notamment la partie vulgarisation, est-ce qu'elle vous paraît suffisante, satisfaisante et est-ce qu'elle donne des vraies clés de compréhension au public, aux spectateurs, voire, comme on disait, un peu aux politiques?
Je pense que c'est une fois encore très variable. On a des excellents médiateurs, des excellents vulgarisateurs. Enfin, à titre personnel, je suis abonné à de nombreuses chaînes YouTube, par exemple, qui font de la vulgarisation et de la médiation scientifique, et même de la médiation tout court, parce que, en histoire, en art, il y a des choses intéressantes aussi. Et il y en a qui sont vraiment passionnants. Moi, en général, je suis plus convaincu par ce que je vais trouver sur des médias spécialisés. Effectivement, on va avoir une émission sur un type de thème ou un type de sujet. C'est très compliqué d'être médiateur et d'être médiateur pour l'ensemble des sciences. C'est très, très vaste comme domaine. Et on n'est plus à l'époque où le chercheur avait la connaissance absolue sur l'ensemble de l'univers. Maintenant, les connaissances sont beaucoup trop pointues. Donc, on peut être spécialiste sur une chose. Après, moi, je trouve toujours ça un peu délicat quand on va avoir dans les médias traditionnels où on essaie de faire du sensationnel. Souvent, les informations sensationnelles sont relayées. Donc, on va, quand on a une grosse info, on va avoir une grosse pub dessus. Par contre, si au final, l'info, elle n'était pas tout à fait ce qu'on pensait, il n'y aura pas le même suivi. Donc, il y a des choses très, très bien. Il faut garder un esprit critique. Et je pense que c'est ça le plus important, en fait. Une fois que le sujet vous intéresse un peu, essayez d'aller le creuser d'un petit peu plus près, croiser les sources et voir si ça se recoupe bien.
Alors il y a aussi tout ce qui relève du conspirationnisme. Est-ce qu'on pourrait là donner une idée d'un site web, d'une chaîne YouTube pour le coup qui vous semblerait assez sérieuse et intéressante?
Le défaut, c'est qu'on va avoir des choses qui sont très spécifiques. Par exemple, moi, il y a Y-Penser que je trouve excessivement intéressant parce qu'on va avoir, notamment sur la physique quantique, des explications qui sont très intéressantes, très bien faites. Après, un truc que moi, j'ai trouvé absolument fantastique, c'est Alexandre Astier et son exosconférence. La présentation et les explications qui sont faites dedans sont d'une pertinence, d'une justesse qui est incroyable. Et ça, j'invite tout le monde à aller voir ça.
Donc au-delà des médias traditionnels, voire même récents, il y a aussi l'université qui produit des médias, qui produit des supports peut-être aussi de cours ou des supports pour les étudiants ou le grand public. Est-ce qu'il y a dans l'ensemble de ce qui est préservé par l'université quelque chose qui correspond à votre dominante?
Alors moi j'ai un profil qui est un peu particulier où je suis un peu à l'interface entre pas mal de choses. Donc au final, je pense que le site qui décrit mieux mon activité, c'est le mien, où il va y avoir à la fois les aspects scientifiques, on va retrouver mes articles scientifiques, mais il y aura aussi, je fais beaucoup de relations entre l'art contemporain et les sciences biologiques, donc il y a aussi ça qui est développé, il y a les parties médiation, les parties communication. Donc comme c'est très divers, sur ma partie spécifique, j'ai fait mon petit site à moi, quoi.
Au niveau de l'art contemporain, vous travaillez avec Le Frénois, par exemple?
Oui, je travaille avec Le Frénois. Je travaille aussi énormément avec l'École supérieure d'art de Tourcoing dans le cadre du programme de recherche Images, Sciences et Technologies. C'est par ça, en fait, que j'ai découvert l'art contemporain. Et donc, on reçoit régulièrement des étudiants ici. On reçoit, j'ai eu différentes collaborations avec des personnes du Frénois, en particulier avec Pierre Pose, avec lequel je me suis énormément amusé. Pendant 2 ans. Et donc, on a différents artistes qui viennent et on a aussi des résidences artistiques qui se font ici. Et là, dans les dernières résidences qu'on a organisées, donc c'était avec Adèle Tilwin et Tyler Kaufman, on a eu quelque chose qui nous a permis après de faire de la médiation scientifique et d'aller justement voir les enfants pour les sensibiliser à la fois à la biologie cellulaire, au tissu, mais aussi à l'art, à l'écriture et aux langues. Donc on a pu faire des ateliers un peu à l'interface entre tout ça.
Donc voilà, des partenariats entre la science et l'art. Pourquoi pas aussi avec la philosophie un jour?
Ah mais complètement. L'idée, c'est exactement ça. Et l'art, c'est une des façons justement de faire des ponts avec les autres disciplines. C'est-à-dire que moi, j'aime beaucoup l'interdisciplinarité. Je l'ai beaucoup fait entre les différentes sciences dites dures. Là, justement, pouvoir découvrir les sciences humaines et les intégrer dans les réflexions, c'est super intéressant et ça donne d'autres regards sur ce qu'on fait nous. Donc c'est génial.